Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages, il a apporté des magazines. Notre invitée sera la chanteuse et comédienne Louane. On parle de la nouvelle série Vision qui démarre ce soir sur TF1 avec elle dans le premier rôle. Lisa Marie Marquez va nous dresser le portrait pré-fame de Louane. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et Marc-Antoine Lebret sera là pour clore l'émission. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe Vandel.
Et je salue pareillement Bruno Donnet. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques et dans vos télescopages ce matin, le plan de communication de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives, épisode 2.
Oui, vous vous souvenez Philippe que nous nous sommes penchés ici même lundi dernier sur la toute dernière stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon qui consiste à présidentialiser les élections législatives. On a vu que son plan avait été minutieusement préparé, mais je vous propose ce matin d'aller un cran plus loin pour regarder maintenant s'il s'avère payant médiatiquement. Alors d'un point de vue strictement comptable, la réponse est oui. Oui, sa tactique de troisième tour de la présidentielle et d'élection au poste de Premier ministre continue de passionner les médias qui lui ouvrent très largement leurs antennes. Rien qu'hier, par exemple, le leader de la nouvelle NUP était le midi sur France 3 pour justifier l'étrangeté constitutionnelle qu'il tente d'imposer.
Il faudra s'en tenir à la Constitution puisque c'est elle qui s'applique. Et la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui dirige la politique de la nation, pas le président de la République.
Et le soir même, dans un reportage du 20h de TF1, pour y faire la même chose.
Dans la Constitution, il est marqué à l'article 20 que le chef du gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Voilà, il n'est pas écrit « fait tout ce que lui dit le président de la République ».
Pour autant, est-ce que politiquement, cette stratégie fonctionne ? Eh bien ici, la réponse est à la fois oui. Et non, oui, car elle a permis d'éclipser le Rassemblement National, de faire totalement oublier que c'est Marine Le Pen qui est arrivée deuxième de l'élection présidentielle, hein, pas Jean-Luc Mélenchon. Mais non, car la riposte d'Emmanuel Macron est extrêmement efficace et surtout déjà très bien rodée. Hier soir, l'excellente émission dominicale de France 5, C'est Politique, a mis la main sur un document. On y entend Emmanuel Macron parler tactique devant un parterre de ceux qui seront les candidats de sa majorité aux élections législatives. Il leur explique qui seront leurs adversaires et, en renvoyant dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il leur dit ceci.
Là, vous regardez ce que vous aurez face à vous dans toutes vos circonscriptions. Un projet d'exclusion à l'extrême droite de l'échiquier et de l'autre côté, un projet qui a choisi le communautarisme. Soyons clairs.
Voilà, il mêle extrême droite et communautarisme. Alors c'est habile, hein, car en renvoyant Jean-Luc Mélenchon à sa prétendue intention de flatter les électeurs de confession musulmane, c'est ça le communautarisme, Emmanuel Macron rejoue rigoureusement la même stratégie que celle qui lui a permis de s'imposer à la présidentielle, c'est-à-dire la diabolisation. Il y a trois semaines, c'était lui ou la dangereuse Marine Le Pen. Eh bien pour les législatives, ce sera lui ou le terrible Mélenchon. Alors c'est bien joué, mais... Et c'est tout de même nettement plus surprenant, cette stratégie est reprise par une partie de la presse. La semaine dernière, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a titré « Pleine une » sous une photo de Jean-Luc Mélenchon, « La menace islamo-gauchiste ». Tandis que, dans le même temps, le magazine Le Point, d'ordinaire moins coutumier de l'agitation de chiffon rouge, a fait la même chose en affichant en couverture « Mélenchon, l'œil goguenard » sous ce titre tout en nuance « L'autre Le Pen ». L'autre Le Pen, où l'on découvre, Philippe, que le célèbre front républicain est désormais un double front républicain et que dans une porosité surprenante, la surenchère n'est plus seulement politique, elle est aussi médiatique.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Je me tourne vers vous Héloïse Goy, le programme de votre indispensable ce matin, ce sera aux alentours de 10h30.
Alors aujourd'hui pas de fiction, mais je vous parle d'une série documentaire dingue, mais dingue au sens propre. Ça nous plonge au cœur d'une arnaque digne de l'arnaqueur de Tinder, vous vous rappelez de l'arnaqueur de Tinder? Sauf que cette fois il y a aussi des histoires de courgettes, de jus détox, de quinoa, vous allez voir c'est aussi improbable que captivant.
Nicolas Carreau, c'est la même question, votre indispensable ce matin, c'est une semaine particulière avec vous.
Oui, je commence un marathon de chroniques pour vous parler chaque jour d'un des sélectionnés du prix européen GMF et je commence tout à l'heure avec Jeanne Benhameur.
Dans un instant, nous serons avec Louane, on va parler de la série Vision qui démarre ce soir sur TF1. Mais d'abord, on l'écoute chanter, c'est le titre Tornade issu de la réédition de son dernier album Joie de vivre sur Europe 1.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel. 9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour Louane.
Bonjour.
Chanteuse, comédienne, seulement 25 ans, presque déjà 10 ans de métier, révélée dans The Voice en 2013, deux albums certifiés 10 de diamant, 5 victoires de la musique, également actrice et pas qu'un peu, César du meilleur espoir féminin en 2015 pour le film La famille Bélier, 7 millions d'entrées, excusez du peu, film signé Éric Lartigot. Et votre actu, c'est une nouvelle série événement sur TF1, ça s'appelle Vision au pluriel, ça démarre ce soir, 6 épisodes de 52 minutes, série, si on veut la résumer sommairement, qui oscille entre le polar et le surnaturel. Qu'est-ce qu'elle raconte? Que dit, que nous montre Vision?
Alors d'abord, je vais juste rectifier un petit truc. J'ai pas 5 victoires de la musique. J'ai reçu 5 prix dans la musique, mais j'ai pas 5 victoires de la musique.
Vous avez raison, vous avez raison. Il faut toujours dire les choses.
C'est important, parce que
très important.
Ce serait présomptueux de ma part de laisser ça. En revanche... du coup, bah, ça va très très bien.
Ma question, c'était, vous avez oublié ma question, que raconte la série Vision?
Alors, la série, du coup, c'est l'histoire de... En fait, c'est une histoire de disparition. C'est une petite fille qui s'appelle Lily qui disparaît. Et en fait, tout un village va se mettre à se concentrer autour de cette disparition. Et cette petite fille, elle avait un copain qui s'appelle Diego. Et Diego, il voit des choses qui sont un peu étonnantes.
Un copain,
étonnantes.
C'est un petit garçon, il a 8 ans, le petit
garçon,
Diego.
C'est ça.
Voilà. Et votre rapport avec Diego, qui est Sarah, le personnage que vous incarnez, d'un mot?
Alors Sarah, le personnage de Sarah, c'est la psychologue de Diego.
On va entendre la bande-annonce.
D'inquiétantes disparitions dans les Alpes, on est toujours sans nouvelles de la petite Lily, disparue maintenant depuis 5 jours.
Lily, je l'ai vue. Tu l'as vue
dans ma chambre.
Non, il a quoi, mon fils?
Il voit des choses que les autres voient pas. Ses visions veulent dire quelque chose.
Sûr, c'était des scènes de crime. Il y a tout qui coïncide.
Moi, les gens d'ici, je les connais depuis toujours. Tous.
En connaissant les gens comme vous les connaissez, on voit pas ce qu'ils nous cachent.
Il voit quoi exactement, Diego?
Tu me demandes quoi, là? De mentir?
La bande-annonce de Vision qui démarre ce soir sur TF1. Qui est votre personnage de Sarah, Louane?
Le personnage de Sarah, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a été placée dans une famille d'accueil quand elle était jeune, qui est victime d'un traumatisme amnésique qui fait qu'elle ne se rappelle absolument pas de sa vie avant d'être placée. Et elle évolue dans un monde où elle est psychologue pour enfants parce que c'est quelqu'un qui est vachement à l'aise avec les enfants. Et malgré tout, il y a des trous dans sa vie et elle cherche à aider les gens autour d'elle tout en essayant de trouver des morceaux de sa vie à elle.
Diego est un enfant assez perturbé, ses parents se posent des questions. Il commence à parler à votre personnage, Sarah, donc la psychologue, à travers ses dessins, parce que Diego dessine des choses qu'il voit et surtout qu'il est le seul à voir.
Mes copains, ils disent que ça veut rien dire ce que je dessine.
Et toi, tu crois qu'ils ont raison?
Je sais pas. Moi, je dessine ce que je vois, c'est tout.
Donc, tout ça? La chaussure, l'oiseau, la main, tu les as vus? Mais tu les as vus où? En rêve? T'en as rêvé cette nuit?
On rêve pas forcément que quand on dort. Si.
T'as raison. On peut rêver tout le temps. Et toi, tu rêves tout le temps, c'est ça? Même le jour? Même quand tu dors pas? Oui?
Oui. J'aime bien quand tu souris.
Ah bon?
T'as la même tête que quand t'étais petite.
Ces dessins enferment Diego dans un monde où il est seul, que personne ne comprend. C'est difficile d'être quelqu'un de particulier. Il est rejeté par ses amis parfois. Est-ce que vous-même vous avez déjà ressenti une solitude en étant enfant? Une impression d'être différente ou même une certitude d'être différente, Louane?
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Pourquoi bien sûr?
Parce que je suis hyper active. Donc forcément, c'est particulier quand on est enfant de devoir gérer l'hyperactivité, et souvent les autres enfants le comprennent pas. Donc moi, j'ai pas eu j'avais pas énormément de copains quand j'étais petite, donc ouais, c'était assez facile de se projeter. Et moi, je trouve ça génial justement que par cette série il y ait ce message qui soit passé, que finalement la différence est une force, parce que même si ça m'a pris des années, aujourd'hui, cette différence-là, je sais que c'est une de mes grandes forces, en fait.
Comment était Louane avant d'être connue? Elle a été connue très très jeune. C'est le portrait préfet de Lisa Marie Marquez qui arrive dans Culture Média. À tout de suite.
10h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de la chanteuse et actrice Louane. On parle de la mini-série Vision et on va mieux vous connaître, Louane, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Louane.
Bonjour.
À seulement 25 ans, vous avez déjà sorti 3 albums, obtenu des récompenses pour la musique, mais aussi un César du meilleur espoir pour votre premier rôle au cinéma. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Louane, ou plutôt Anne Edwige Maria José, vous êtes née à Sainte-Catherine, dans le Pas-de-Calais, et c'est à Hénin-Beaumont que vous avez grandi. La musique arrive dans votre vie très tôt, avec votre nounou Monique, qui est passionnée, chante beaucoup et vous fait écouter France Gall. Elle vous inscrit à votre premier concours de chant à seulement 8 ans et vous finissez 5e.
Exactement. Et c'est la fin du monde, parce que je voulais vraiment gagner.
Vous savez quoi ? Quand vous avez dit exactement, dans le regard, vous aviez encore les boules d'avoir fait 5e.
Mais je pense que ce sera le cas toute ma vie. Je pense que quand j'aurai genre 80 ans, je me rappellerai de ce moment et 5e, très bien. Et en vrai, je suis vraiment mauvaise parce que je suis arrivée 5e, mais j'ai quand même eu... Bruno Berberès à l'époque me donne le prix du coup de cœur du jury, malgré tout. Mais j'étais très très triste d'avoir fini 5e.
Louane, vous intégrez une école de musique où vous apprenez le violoncelle, mais ça tourne court, vous vous faites renvoyer par le directeur, monsieur Papa Jacques, c'est ça ?
Exactement. Exactement.
Sur quel prétexte ?
C'est pas exactement à cause de lui que je me. Enfin, c'est pas lui qui a poussé à la décision que je me fasse. Renvoyer. Il faut dire que je m'entendais pas très très bien avec la professeure de solfège et que de toute façon l'idée de rester assis sur une chaise en classe c'était pas mon délire. Donc bah forcément de fil en aiguille j'ai vraiment causé les raisons du renvoi. Hein.
D'accord.
J'arrivais et je disais oh je me suis trompée de sac, j'ai pris mon sac d'école, non j'ai pas fait mes devoirs. Enfin, j'avais pas envie, quoi.
L'école de musique, c'est donc pas trop ça, Louane. L'école qui vous fait rêver, c'est plutôt celle-ci.
C'est vrai.
C'est quoi ? Ah,
Philippe, c'est High School Musical de Disney.
Ah oui.
C'est pas tout à fait ma génération.
C'est vrai. Moi, je voulais East High toute ma vie. C'est le lycée, du coup, de High School Musical. J'avais très, très envie d'aller là-bas. Ça ou Anna Montana, j'étais un peu entre les deux.
On va y venir, vous vous doutez bien. Donc Zac Efron vous fait vibrer, mais celui qui est affiché partout dans votre chambre, c'est surtout lui.
Évidemment, qui d'autre ?
Et ça, c'est Justin Bieber.
Je l'ai vu parce que c'était écrit. Et Louane, je précise aux auditeurs qui ne nous regardent pas sur Europe 1.fr, s'est mis la main sur le cœur quand elle a entendu Justin Bieber. Ça marche toujours.
Mon mec est au courant, il n'y a pas de soucis.
Il ne peut pas être au courant. Hein. C'est Justin Bieber quand même.
Ah ça, il était partout dans ma chambre.
Et puis vous venez de le dire, celle qui vous inspire le plus, c'est Miley Cyrus alias Anna Montana.
On est vraiment sur mon adolescence là.
Ouais.
Enfin, pré-ado.
On est obligé parce qu'après, c'est avant que vous soyez célèbre. Vous êtes célèbre tellement tôt. On est obligé de faire avec ce qu'on a, Louane, vous savez.
Louane, vous êtes aussi une grande fan d'Harry Potter. Une réelle passion associée à Noël qui dure encore aujourd'hui. Et un petit faible pour Ron Weasley, je crois.
À l'époque, ouais, quand j'étais petite, j'étais complètement amoureuse de Ron Weasley. Voilà. Et puis ça a changé. Après, c'était plus Malfoy. Mais Harry m'a jamais intéressée.
Malfoy, il est méchant.
Oui, mais c'est un méchant fragile.
C'est vrai.
Ah. Il arrive pas à tuer Dumbledore, donc bon.
On parle d'Harry Potter.
J'ai bien compris.
Et
je vois que le niveau est assez.
On vous a perdu, Philippe.
Non, au contraire, j'écoutais. Et...
Sans transition, côté bizarrerie, Louane, vous avez la phobie des bananes. Une phobie qui remonte à l'enfance. Je crois que les bananes vous ont traumatisé après avoir voulu en attraper une. Sur une table, vous avez eu un petit accident, c'est ça ?
Très longue histoire, mais c'est quelque chose comme ça.
Ouais. Là, on est dans thérapie, là, quand même, non ? Parce que si vous remontez à ces phobies et avec les sous-entendus, attention.
C'est vrai. Louane, à l'âge de 12 ans, 3 quarts, c'est important de le préciser, vous faites votre première télé dans un concours de chant sur Direct 8, qui n'est pas encore C8. Ça s'appelle l'École des stars, on écoute.
Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 12 ans, 3 quarts, et je viens d'un nouveau moment. J'aimerais chanter, mais ça c'est plutôt un rêve. Yeah.
Là, je vois un chemin avec beaucoup de lumière, ma chérie.
Voilà. Au revoir.
C'est la réaction de Tina Turner à la fin.
Tina Arena à la fin.
Ouais.
Ouais, c'était franchement c'était un moment vraiment cool dans mon enfance de pouvoir faire cette émission, c'était très cool.
Le moment que j'ai préféré, elle a 12 ans 3 quarts.
Oui, 12 ans 3 quarts.
C'est extraordinaire.
C'est pour ça que je l'ai précisé.
Très important.
Très important. Très on rigole pas avec ces choses-là.
Louane, vous voulez donc faire de la musique, vivre de la musique, mais d'abord il y a l'école. Vous êtes scolarisée au lycée Montebello à Lille en internat, mais qui dit internat dit pension complète à la cantine, et c'est pas terrible terrible. Alors votre truc c'est de faire fondre les Babybel au micro-ondes et de cacher du saucisson dans votre chambre alors que c'est interdit.
C'est vrai. C'est vrai, j'étais du coup d'ailleurs, en fait j'ai eu la chance d'avoir un papa qui faisait très bien les courses pour l'internat parce que mon père, c'était mon père qui cuisinait à la maison et il cuisinait vraiment bien. Et je sais pas, je pense qu'il y avait un truc de tristesse de se dire que je mangeais à la cantine le midi et le soir. Et du coup il me faisait toujours des courses énormes toutes les semaines. Mais c'est génial parce que du coup j'étais un peu dealeuse de bouffe à l'internat, c'était très sympa.
Louane, en parallèle, vous continuez les concours de chant et c'est comme ça que le directeur de casting, Bruno Berberès, vous repère. Vous avez 16 ans et l'émission The Voice vous révèle. On vous remarque dès les auditions à l'aveugle avec votre petit plus dans la voix et votre émotion à fleur de peau qui vont toucher le public droit au cœur. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Merci Louane de ses sourires, ça fait trop plaisir.
Mais c'est trop bien, le Babybel fondu, c'est... C'était une grande passion, je suis très contente de ça.
Vous êtes toujours amoureuse du Babybel fondu ou pas?
Alors c'est vraiment quelque chose que je fais moins, mais par contre c'est vraiment resté... Ma meilleure amie, on était à l'internat ensemble, et c'est vraiment quelque chose qui est resté de cette époque de l'internat.
Ils vont être contents s'ils nous écoutent. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, on vous retrouve demain. Dans un instant, on va parler avec Louane, on va aussi parler de la 3e édition du prix littéraire Europe 1 GMF, avec notre premier indispensable Nicolas Carreau. Il arrive dans un instant, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes avec Louane, elle est à l'affiche de Vision. C'est une nouvelle série sur TF1, une série à la fois polar et un peu onirique. Ça démarre sur TF1 ce soir à 21h. Il y a gros casting.
Gros casting, ouais. Soufiane Guerab, Jean-Luc Langlade, Marie-Ange Casta et 1000 personnes.
Vous avez oublié, je vais les redire, il y a Jean-Luc Langlade, Max Boublil, Anne-Marie Vin, Julien Boisselier, Robinson Stévenin, Marie-Ange Casta et justement Marie-Ange Casta qui avait une petite anecdote à vous raconter.
Salut Anne, c'est Marie-Ange. Est-ce que tu te souviens qu'au moment de tourner sur le plateau, au moment où on était bien concentrés, au moment où les caméras allaient démarrer, il y a un gars qui est venu nous voir complètement bourré, l'accessoiriste, qui nous a absolument pas donné d'accessoires, mais qui nous a juste dit une super phrase. Tu sais, Marie-Ange, si tu remplaces les A de ton prénom par des O,
ça fait Marie-Ange costaud.
Depuis, après ce fou rire, tu m'appelles comme ça. Donc,
Marie-Ange,
je t'embrasse très fort.
Marie-Ange costaud.
Marie-Ange costaud. Ouais. Mais c'était un moment incroyable. On était censé avoir des accessoires, mais pas importants, genre un sac, un truc comme ça. Et il débarque complètement bourré, juste avant l'action. Et il nous dit, ouais, tu sais, Marie-Ange, si tu remplaces les A dans ton nom par des O, ça fait Marie-Ange costaud. Et là, c'était la fin du monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai appelé Marie-Ange Marie-Ange. Tout, en un seul mot.
Il
voilà,
y a une double info quand même, c'est qu'il y a des gens bourrés sur des tournages.
C'est rare, c'est très rare. Ouais. C'est très rare. C'est vraiment très très rare.
D'accord. Vous tournez assez peu. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à cette série plutôt qu'une autre?
Le scénar, en fait. Le scénar. Moi, j'avoue, pour que je fasse quelque chose, il faut vraiment que l'histoire me plaise. Et le scénario m'a vachement intéressée. C'était un rôle qui était différent de ce que j'avais l'habitude de faire. En vrai, c'était mon premier rôle d'adulte, donc j'ai trouvé ça ultra, ultra intéressant. Puis j'ai adoré l'idée de travailler avec un enfant, en fait.
Oui.
Et quel enfant?
Parce que vous êtes plus qu'adulte maintenant, vous êtes une maman.
Oui.
Ça change quelque chose dans le rapport aux enfants quand on tourne avec un enfant, d'en avoir en soi-même ou pas?
Non.
Du tout?
Non, moi j'ai toujours adoré les enfants. Par contre, j'ai remarqué que depuis que je suis maman, on me propose des projets avec des enfants, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais dans moi, ma façon d'agir avec les enfants, non, pas du tout. J'ai toujours été ultra à l'aise avec les enfants. J'adore les enfants.
Vous lui racontez des histoires à votre enfant?
Oui. Mais alors, je lui lis des livres plus que je lui raconte des histoires. Je lui invente pas beaucoup d'histoires. Par contre, je lui invente beaucoup de chansons.
Transition toute trouvée avec Nicolas Caro, bonjour.
Quel talent.
Hein, bonjour. C'est le hasard de l'actualité. Enfin, peut-être que quel talent s'appliquait à Louane, et dans ce cas, je vous approuve.
À tous les deux.
Ce matin, Nicolas Caro, vous commencez un marathon, vous nous l'avez dit, pour toute la semaine. C'est le prix Europe 1 GMF qui sera décerné le 9 juin. Et chaque jour, vous nous présentez l'un des 5 romans sélectionnés. On va commencer avec celui de Jeanne Benhamer.
Mais oui, un peu de douceur dans ce monde de brut, franchement, avec donc le nouveau roman de Jeanne Benhamer, écrivaine adulée par ses lecteurs, ça s'appelle La patience des traces. Chez Actes Sud, c'est un livre calme. C'est l'histoire de Simon. Simon l'humain, un psychanalyste. Simon l'humain, c'est presque trop beau pour un psy.
On n'y croit pas.
Ce que Jeanne Benhamer accorde une importance capitale au nom des personnages. Et donc, il vit au bord de la mer, ce Simon l'humain. Il vit seul, mais il pense beaucoup à son ancienne amie qui est partie. Et le roman commence par une rupture, au sens littéral. Un jour, il casse un bol. Le bol lui échappe et il se casse en deux. Mais c'est pas n'importe quel bol. C'était son bol du matin, depuis des années, celui face auquel, vous savez, on est dans un état peu étrange, les yeux dans le vague, et ça le bouleverse. Son bol est cassé, mais c'est pas très grave,
si,
n'est-ce pas?
C'est grave ou pas?
Mais non, pas trop, parce que ça déclenche chez lui comme un déclic, et en plus, il est psychanalyste, et il est un peu assailli, envahi par les voix et les problèmes des autres. Il sent qu'il devrait peut-être bouger. Il en a comme l'intuition.
Et donc, il décide de partir.
Absolument. Ça prend un peu de temps, mais il y va, et il choisit un endroit où il ne peut pas comprendre le langage. Il a besoin de silence, ce sera le Japon, mais pas Tokyo et les grandes villes, un coin isolé, loin du bruit. Là-bas, il rencontre un couple, elle parle français, lui est céramiste, et pratique le kintsugi.
C'est quoi ?
C'est le kintsugi, c'est l'art de réparer, mais en magnifiant la brisure. C'est-à-dire que plutôt que de recoller parfaitement un bol, par exemple, sans qu'on voit plus rien ensuite, l'endroit de la fêlure est décoré et mis en valeur. Vous avez compris, c'est un roman plein de symboles. C'est un roman de rêveur, aussi un roman presque méditatif. C'est court, à peine 200 pages, mais ça reste en vous.
Merci beaucoup. Ça s'appelle La patience des traces et signé Jeanne Benhamer. Et le prix Europe 1 GMF sera décerné le 9 juin sans faire du lacanisme à la petite semaine. C'est ce qu'on appelle manque de bol.
Bravo!
C'est comme ça que ça démarre, évidemment. Il n'a pas choisi ça par hasard. Ça vous a tenté, Louane, ou pas?
Oui, carrément. Vraiment, ça m'intéresse vachement. Maintenant, j'ai une vraie question qui est à l'intérieur de moi. Il a pris son bol avec lui au Japon?
Ah bah, ça vous lirez pour savoir.
J'ai hâte de savoir.
Il répond toujours ça, Nicolas Caro. C'est même plus la peine de lui poser des questions. Vous serez là demain.
Parce qu'après, on me reproche de trop en dire.
Mais vous avez tellement raison. Héloïse Goua va nous parler d'une série documentaire. On marque une courte pause. Louane est avec nous. À tout de suite dans Culture Média.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Louane, elle est à l'affiche de Vision, série qui démarre sur TF1 ce soir à 21h. C'est 6 épisodes de 52 minutes. À la base, vous êtes fan de séries, vous en regardez beaucoup?
Ouais, je regarde pas mal de séries.
Alors peut-être celle-ci va vous intéresser. Héloïse Goua, rebonjour.
Rebonjour, bonjour Louane.
Vous nous parlez d'une série, c'est une série documentaire, c'est pas une fiction. Vous dites que c'est très étonnant. Ça s'appelle Bad Vegan. Déjà, rien que le titre est lui-même étrange.
Tout est étrange dans cette série, je vous préviens tout de suite. Alors déjà, il faut savoir que ce documentaire n'a pas du tout fait plaisir aux principales concernées. Et en général, c'est plutôt bon signe, les documentaires interdits. Écoutez cette conversation enregistrée qui ouvre le tout premier épisode de la série.
Allô ?
Ouais.
Quelqu'un t'a appelé ?
À quel sujet ?
À propos d'un film en production. Une sorte de documentaire.
Non. Il ne faut pas les laisser faire. Tu dois tout faire pour les freiner. Ne leur donne pas d'interview, dis non à tout ce qu'ils demandent, ne discute pas avec eux. Fais tout pour tuer le projet dans l'œuf.
Apparemment, c'est trop tard.
Quoi, il est déjà terminé? Putain, voilà qu'ils font un documentaire Netflix, fais chier.
Fait chier, mais du coup, ça donne envie de regarder, n'est-ce pas,
vraiment?
Alors, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous en rappelez, Philippe, Olivier Benkemoun, vous avez parlé ici du documentaire L'arnaqueur de Tinder. Vous l'aviez peut-être vu, Louane.
Ouais.
Vous savez, c'était cet homme qui se faisait passer pour un milliardaire et qui parvenait à extorquer des centaines de milliers de dollars à des jeunes femmes qu'il séduisait.
Arnaque de vol, puisqu'il arrivait à louer des jets privés quand même.
Exactement. Plusieurs centaines de milliers de dollars en jeu. Eh bien là, on reste dans le même domaine, sauf qu'il s'agit cette fois d'un couple d'arnaqueurs. C'est un peu des Bonnie and Clyde 2.0. Et qu'on va aussi parler de courgettes, de quinoa et de jus détox, comme l'indique le titre de la série, Bad Vegan.
Ouais, détox, ça rime avec camoulox. C'est quoi l'arnaque à l'origine de cette histoire?
Tout est un petit peu camoulox, je vous le disais, dans cette série. C'est ce qui la rend intéressante. Et d'ailleurs, ce scandale a passionné les tabloïds américains à l'époque. On est à New York en 2004. Sarma Mengalis crée le tout premier restaurant américain vegan qui s'appelle Pure Food and Wine. Et l'adresse connaît un succès fou. Elle attire des superstars comme Alec Baldwin ou Cathy Holmes. Sarma devient la papesse de la cuisine vegan, et elle se fait connaître dans tout le pays, et ça va durer plusieurs années.
Jusque-là, tout va bien.
Et oui, avant que tout parte à volo, Philippe. En 2015, le restaurant new-yorkais arrête de payer ses salariés. Sarma disparaît sans explication. Au tout début, elle rassure vaguement son équipe par téléphone en assurant que tout le monde sera bientôt payé, que tout va bien se passer. Mais tout ne va pas bien se passer, Philippe, Louane, sinon il n'y aurait pas de série. Alors en fait, Sarma a fait la rencontre d'Anthony. Anthony, c'est un drôle d'homme qui lui promet la gloire, la fortune et surtout l'immortalité. Et Sarma va complètement tomber sous le charme et surtout dans le piège de cet homme qui lui assure avoir des pouvoirs magiques.
Il y avait un avenir fantastique et magique qui nous attendait, dans lequel mon chien aurait vécu pour toujours. Cette réalité terrestre ne comptait pas vraiment puisqu'on repartirait tous de zéro dans un avenir utopique. Il appelait ça le bonheur éternel.
Un bonheur éternel qui coûte très cher. Hein. En tout, Sarma, que vous venez d'entendre, va verser à Anthony 1 700 000 dollars en 2 ans. Et cette somme, elle la prélève de la trésorerie de son restaurant. Et ça lui vaut aujourd'hui son surnom de la Bernie Madoff vegan. Alors, je ne rentre pas dans les détails les plus fous, je vous laisse découvrir ça. Je vous dis juste que la police va devoir s'en mêler et lancer un mandat d'arrestation pour retrouver ces deux-là qui, à un moment donné, disparaissent complètement des radars et laissent donc un restaurant en faillite. Alors, si vous aimez les histoires de true crime, on dit comme ça, invraisemblable, eh bien, vous ne prenez aucun risque avec Bad Vegan. Et dernière chose pour vous donner envie, le réalisateur de cette série n'est autre que Chris Smith, déjà à l'origine de la série doc Tiger King. Peut-être que vous l'aviez vu. Voyez ce que c'est. Non. Joe Exotic, bon, j'en avais parlé ici, c'est encore presque plus fou.
Il y a aussi un type qui existe, pour de vrai.
Absolument, c'est une série doc aussi, complètement loufoque.
Alors celle-ci, Bad Vegan, où est-ce qu'on peut voir cette série documentaire?
C'est sur Netflix, c'est 4 épisodes d'environ 1 heure.
Voilà, et puis dernière chose Héloïse, vous teniez à dire un mot aux équipes de doublage de Culture Média.
Eh oui Philippe, vous savez très bien que souvent les séries dont je vous parle ne sont pas encore doublées en français quand elles sont encore en cours de diffusion à l'étranger. Mais on a la chance ici dans Culture Média d'avoir dans l'équipe des doubleurs d'exception. Et Louane, je voulais vous demander ce que vous pensiez de cette traduction réalisée par Alice Fauss, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Elle doublait l'héroïne de la série argentine 1m20, une héroïne, vous rigolez d'avance Philippe, une héroïne plutôt révoltée contre ses professeurs.
L'avortement, ce n'est pas une blague.
Non, c'est pas une blague. J'ai vraiment avorté. C'est mon corps. J'ai le droit d'avorter, de baiser ou de tout foutre en l'air, ok?
C'est poignant, Louane, non?
C'est plein de bonnes intentions.
C'est très fort, on sent le talent de comédienne.
On sent surtout le César qui arrive.
Oui, oui.
Blague à part, bon anniversaire.
Bon anniversaire. Et en tout cas, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit.
Oui.
Série extraordinaire, série argentine.
Extraordinaire, 1m20, c'était diffusé sur Arte, formidable, sur une jeune femme handicapée.
Vous regardez quoi comme série en ce moment, si tant est que vous regardiez des séries?
Alors en ce moment, on n'est pas trop sur les séries, on se refait tous les Marvel en ce moment.
Tous les Marvel?
Ouais.
Sur Disney Plus, qui vient d'arriver et qui est en train de tailler petit à petit des croupières à Netflix.
Ouais.
Parce que le catalogue de Disney Plus est absolument prodigieux.
Et Netflix qui perd des abonnés,
malheureusement.
Exactement.
Ouais, au fur et à mesure.
Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite. Il y a Marc-Antoine Lebray qui va arriver. On est toujours avec Louane et on s'en réjouit. À tout de suite et bon anniversaire.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Louane, Vision, c'est sur TF1, c'est une série en 6 épisodes. C'est ce soir à 21h. Parfois, c'est un petit peu inspiré par la réalité.
C'est un peu inspiré par la réalité. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas pour but d'être dans quelque chose de fantastique.
Parce qu'on pense évidemment à la série Les Revenants, au film Le Sixième Sens. Il y a du surnaturel, il y a des visions, mais c'est pas seulement ça.
Bah alors, il y a effectivement du surnaturel, mais en tout cas, c'est traité comme quelque chose de possible.
Ouais. Puis au tout début de la série, il y a une petite fille qui disparaît pendant un anniversaire. Tous les gens qui sont présents à cet anniversaire organisent eux-mêmes une sorte de battue dans les bois. Puis après, ils sont réunis, il y a les gendarmes qui arrivent. Et on pense évidemment à la petite Maïlys qui est disparue lors d'un mariage et qui a été tuée par Nordal Lelandais. Évidemment, je ne dirais pas qu'il y ait Nordal Lelandais, mais c'est un peu inspiré de la réalité.
Bah, alors,
ou c'est un hasard complet?
Honnêtement, ça, il faut le demander au scénariste. Parce que bien sûr qu'il y a des similitudes que je vois et que j'entends, mais c'est pas une question à laquelle moi je suis apte à répondre parce qu'on n'en a pas parlé sur le tournage. Mais en tout cas, je vois évidemment les similitudes.
Vous avez dit, Louane, il y a quelques temps, je ne chante plus depuis la famille Bélier pour ne pas mélanger les choses.
Ouais, dans les films, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à... Alors, hors animation, évidemment, parce que l'animation, c'est autre chose. J'ai tendance à pas trop chanter dans les films parce que en grandissant, j'ai décidé de séparer les deux parce qu'en fait, la musique, c'est quelque chose de très personnel et que j'ai tendance à vraiment vouloir chanter des choses qui font partie de moi, en fait. Alors que chanter dans un, dans un film, c'est vraiment quelque chose de différent. Après,
vous êtes au service de l'histoire dans un film. C'est pas vous qui écrivez le texte.
Exactement.
Quand bien même ce serait vous, il serait revu et relu pour que ça cadre et que ça coïncide.
Ouais, et puis surtout, il serait écrit sur quelque chose qui ne viendrait pas de moi à la base. En revanche, ça veut pas dire que j'accepterai plus jamais un film où il y a de la musique dedans et où je devrais chanter. Mais c'est moins plausible.
Où en sont vos projets musicaux ?
Et ben là, je suis en train de bosser sur mon quatrième album. Je suis en studio en ce moment et en tournée.
Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tout ce que vous avez dit, c'est qu'il va commencer par la lettre N.
C'est ça.
Tu parles d'un indice.
Ouais, et en plus, je suis même pas encore. Je suis même pas encore sûre de si ce sera un mot singulier ou au pluriel.
Ouais. Et il y aura des concerts ou pas? Parce que j'ai pas bien compris. Il y a un nouveau show qui s'appelle Louane en couleur.
Ouais.
Mais Louane en couleur, c'est pas avec le quatrième album.
Alors si.
Ah.
Donc en fait, c'est là où c'est compliqué. En fait, ouais.
Heureusement que vous êtes là, hein, parce que sans vous, on serait perdu.
Ces concerts-là, c'est un lien entre la réédition de mon troisième album et ce qui va se passer dans le quatrième. C'est pour ça qu'il y a un inédit sur scène en ce moment.
Ça faisait 4 ans que vous n'étiez pas remonté sur scène. Je vais le dire qu'il y a une tournée en France. Vous allez passer par l'Olympia à Paris le 1er juin. Premier concert depuis 4 ans, c'était à Nîmes. C'était le 6 mai, donc il y a 10 jours. C'était comment ?
Incroyable. Incroyable. Et depuis, j'en ai fait deux de plus, un Clermont-Ferrand et un Bordeaux, et c'était génial.
Incroyable. Pourquoi? Comment? C'est comme le vélo, on monte dessus et on n'oublie jamais.
En vrai, j'avais un peu peur de ça,
Bien sûr.
Juste avant de monter sur scène, le premier soir, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, je l'ai vraiment dit. En plus, il y a une vidéo de moi qui dit, c'est comme le vélo. C'est vraiment drôle.
J'ai pas vu la vidéo.
C'était incroyable. C'était à la fois difficile et plein d'émotions.
Il y avait des guests.
Comment?
Est-ce qu'il y avait des guests?
Pas pour l'instant, non.
Est-ce qu'il y avait Grand Corps Malade? Donc non, puisqu'il n'y avait pas de guest, c'est dommage. Juste comme ça, pour le plaisir, Grand Corps Malade, Louane.
Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole quand la vie te punit, la musique
te console? Il
n'est
pas avec nous dans ce studio, donc on peut se permettre d'interrompre Grand Corps Malade. C'était juste pour le souvenir et pour le rappel.
Il vous en voudrait pas?
Non, non.
Non.
Et il écoute souvent l'émission. Et puis quand c'était lui, on faisait l'inverse. On coupait la deuxième personne.
Tout va bien.
Voilà. Les prochaines dates de concert, vous serez à Lyon le 19 mai, Nancy le 20, Arras le 30, Is le 10 juillet, Cannes le 20, les Sables de Lonne le 31, ça sera en juillet, et l'Olympia, je l'ai dit, le 1er juin. Et puis vous êtes juré dans The Voice Kids.
Ça
se passe comment? Il y a avec vous Julien Doré, Kenji Girac, Patrick Fiori. Vous étiez talent, vous êtes passé du côté coach. Ça se passe comment?
J'ai vachement, sur les premiers enregistrements, j'ai vachement cherché ma légitimité, parce que c'était particulier justement de passer de la scène au fauteuil. Mais par contre, c'est incroyable. Les gars sont trop cool, les enfants sont géniaux. C'est une saison avec énormément de grandes voix.
Et vous dites avoir été submergée par l'émotion parfois, au point de quitter le
plateau. Alors, je vous le dis en amont, c'est très très possible qu'on voit apparaître des articles post-émission avec écrit Louane la chialeuse. Parce que j'ai pas mal pleuré.
Ça du tout. Il y a un projet de comédienne, là encore c'est mystérieux, film de Jean-Pierre Améris avec Michel Blanc. Vous avez dit... La rencontre a été folle, le scénario m'a bouleversée. Évidemment, on a envie d'en savoir plus.
Et malheureusement, je ne vais pas vous dire grand-chose, à part que je tourne cet été, je tourne entre août et fin septembre.
Voilà, on aimerait bien avoir des questions qu'on a le droit de poser. Voilà, je le dis ça comme ça avec beaucoup d'ironie. 10h54, je suis obligé de m'interrompre, parce que c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray, comme chaque matin. Il y a des stars qui sont là exprès pour notre invité. Aujourd'hui, il vous adore, c'est François Damiens qui est là pour vous, Louane.
Bonjour, bonjour. J'ai eu peur quand j'ai reçu l'invitation, Philippe. Hein. Tu m'as dit on reçoit une blonde, Dénin Beaumont.
J'ai eu peur aussi.
Et en fait, j'ai compris que c'était pas la fille du borgne, mais la fille du muet, dans la famille Bélier. Coucou la famille Bélier, coucou la famille Blaireau. Oh, ça va, c'est Philippe, nous. Les filles, hein, je rigole.
Aurel San, voulez-vous dire quelques mots, Louane?
Ouais, c'est marrant. En fait, j'avoue que quand elle était petite, Louane, elle a été diagnostiquée hyperactive. Et du coup, c'était pour dire que moi aussi, je suis hyperactif.
Incroyable.
Ouais, enfin bon, bref. J'aurais pu jouer dans la famille Bélier, vu qu'il n'y a pas trop de dialogue à retenir, c'est cool.
Vous êtes ensemble dans The Voice Kids. Votre ami Julien Doré est là pour vous.
Oh, salut les filles d'Europe 1. Oh, coco Caline. Salut Philippe, deux années canal. Oh, coco Caline. Louane et moi, c'est plus que de l'amitié, c'est aussi le cheveu. On est quand même les deux plus belles blondes de la chanson française. Nous, on n'a pas les pointes sèches. Parce que dessus, je mets du jojoba, du beurre de karité. Oh, jojoba, karité, super, j'ai une nouvelle chanson. Oh. Ah,
pardon. Je vous interromps parce qu'il y a Gilbert Montagnier qui vient d'arriver dans le studio.
Bonjour, RTL. Alors, oui, vous dites, je crois que Philippe, il faudra penser à aller faire une petite visio, si je visite chez l'ophtalmo. Hein. Bon, alors moi, ça ne sert à rien de me parler en langue des signes, hein, ça ne m'aidera pas des masses. Moi, je ne suis pas un bélier, je suis une taupe. Bon, alors, ça ne sert à rien de me parler, ça j'ai déjà dit. Donc, Louane. Louane, j'adore depuis The Voice. D'ailleurs, ce soir, je serai devant ma télé pour sa série Vision. Vision, c'est pas une femme, hein, une vanne. Hein, voilà. Bon, en plus, le casting est super. Louane, Sofiane Guérab, Marie-Ange Casta, Marie-Ange Casta, Marie-Ange Casta. Son mari, Marc-Antoine Lebret, formidable. Hein. D'ailleurs, il est en spectacle à Bernon. Et c'est complet. À Lille aussi, c'est complet. Voilà. Bonne journée, RFM.
Bonne journée, Marc-Antoine Lebray. On salue Marie-Ange Costaud. Merci,
Louane.
Marie-Ange Costaud, vous avez raison. Merci beaucoup, Louane, d'avoir été avec nous. Vision, c'est sur TF1 ce soir à 21h. On y sera. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec la saison 2 de la série La Faute à Rousseau. C'est une série philosophique, mais c'est pas le philosophe Rousseau, c'est Benjamin Rousseau, le plus surprenant des profs de philo. Charlie Dupont l'incarne, il sera avec nous, et aussi le scénariste Thomas Boulet, et puis le comédien Gérard Lanvin pour une comédie J'adore ce que vous faites, dans laquelle Gérard Lanvin interprète Gérard Lanvin. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez, bien fait pour vous, le programme du jour.
Eh bien, on va parler des kilos qu'on pense avoir en trop et savoir si c'est une affaire de régime ou si c'est une affaire d'émotion. Voilà, les kilos émotionnels, on va en parler dans Bienfait pour vous.
On va soigner la tête et pas l'assiette, alors c'est ça. Et puis dans la séquence tendance, oui, je fais un super jeu de mots,
ouais,
là, en
c'est
fait.
C'est bien trouvé.
On va parler des mariages, vous savez, la saison des mariages, elle commence, hein, oui. Clairement. On va vous apprendre comment prévoir un mariage écolo, c'est-à-dire amour et environnement.
Raymond Dominique, je note.
Oui, Raymond, il y aura aussi les tendances maillot de bain, monsieur, pour cet été, ça devrait vous intéresser.
Oui, je prends tout, moi.
On y sera, ça s'appelle Bienfait pour vous, et nous on se retrouve demain à 9h. Salut, bonne journée.